chronique de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Parlons un peu de Nicolas Baudin. La monarchie d'Ancien Régime, même défaillante et mal partie, encouragea et soutint l'exploration du monde et des mers lointaines. Cet élan fut interrompu par la Révolution et l'Empire, strictement occupés à leur destin européen. Cette absence profite à la Grande-Bretagne, laquelle constitue en 25 ans les bases de ce qui va devenir l'Empire britannique. Il y a néanmoins une exception. L'incroyable expédition de Nicolas Baudin, proposée en 1800 au premier consul Bonaparte, qui reçut Baudin le 25 mars et accepta ce projet, en le réduisant notablement d'ailleurs à l'exploration de l'Australie et de ce qui allait devenir la Tasmanie. Parti du Havre le 19 octobre 1800, les deux bateaux, le géographe et le naturaliste, revinrent l'un à l'Orient le 25 mars 1804, et l'autre au Havre le 7 juin 1803, au terme d'un périple que l'on peut qualifier d'odyssée, après avoir perdu son initiateur, Nicolas Baudin, à l'île de France, qui s'appelle désormais l'île Maurice, le 16 septembre 1803. Cette expédition, unique et la première en son genre, n'était tournée ni vers le prestige et la conquête, ni vers le commerce. Elle avait un but scientifique. La recherche et la découverte de plantes, de roches et d'animaux, l'amélioration du tracé des routes maritimes, Bordal, chevalier Bordal est passé par là, l'observation des mers et du ciel. Cartographier, explorer, engranger des connaissances pour l'avenir, tels étaient ses objectifs. Elle ne les remplit qu'à peu près, en but à des péripéties imprévisibles, mais elle constitua la base d'un enrichissement phénoménal de la science naturelle française sous la houlette de son sévère et peu aimable instigateur. Nicolas Baudin, en effet, avait mauvais caractère. Et c'est peut-être ce qui le perdit. Odieux avec ses passagers, dur et intolérant avec ses équipages, peu loquace, il se retrouva dans une grande solitude à des moments où la solidarité et la compassion eussent été bien utiles. Mais l'histoire s'écrivit autrement et le nom de Nicolas Baudin reste attaché à une expérience exceptionnelle dont le destin ne lui donna certes pas la gloire, mais certainement l'estime des scientifiques, car il est à la charnière de l'esprit des Lumières du XVIIIe siècle qu'il avait formé et à l'avant-garde des chercheurs modernes du XIXe siècle. Nicolas Baudin est né en 1754 à l'île de Ré. Il sert pendant la guerre d'indépendance américaine, il est promu capitaine, mais déçu par ce que lui offre la marine, il démissionne et se met à son compte, sillonnant l'Atlantique et les Caraïbes jusqu'en 1786. Cette année-là, il se met au service de l'empereur Joseph II afin de faire du parc de Schönbrunn le plus beau jardin botanique d'Europe. Baudin sillonne encore une fois mers et continents afin de rassembler des collections de plantes et d'animaux. Sa réputation le met en relation avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris pour lequel, sur la belle Angélique, il effectue un périple botanique et scientifique rapportant une étonnante moisson de plantes inconnues. Fort de l'estime des savants de son temps, il réintègre la marine française en 1798 avec le grade de capitaine de vaisseau. Il propose alors à Bruix, alors ministre de la marine, une ambitieuse circumnavigation destinée à rapporter végétaux et animaux, je cite, utile dans les climats tempérés. Appuyé par Volney, Cabanis, Testude du Tracy, Jussieu, tous membres de la Société des observateurs de l'homme et de la première section de l'Institut, Baudin met tout de même 4 années pour faire accepter son projet, réduit à des dimensions plus raisonnables et moins coûteuses par Bonaparte en mars 1800. Ensuite, Tout va assez vite puisqu'en juin, deux unités, la corvette Galatée et une gabarre de 350 tonneaux la menaçant, qui sont respectivement rebaptisées le géographe et le naturaliste, sont affectées à l'expédition et aménagées pour le transport des végétaux. Cuvier, Claret de Floriot et Gérandeau rédigent les instructions. Le mémoire de Gérandeau, considération sur les diverses méthodes à suivre dans l'observation des peuples sauvages, est peut-être le premier guide d'observation anthropologique européen fondé sur des considérations entièrement nouvelles, détachées de la religion et de l'intention de soumettre. Juste avant le départ, le 17 septembre 1800, le ministre de la Marine transmet à Baudin un ordre, lui enjoignant de constituer une collection particulière pour l'épouse du premier consul, Joséphine Bonaparte, en vue d'enrichir les collections de la Malmaison. L'Institut et le Muséum d'histoire naturelle sont chargés de choisir observateurs et savants qui accompagneront Baudin. Au total, ils seront 22 à appareiller dans, je cite encore, « la confiance et l'allégresse » le 19 octobre 1800. Il y a 5 zoologues, dont le vilain, François Perron, qui sera le seul à faire l'expédition en entier et rédigera le rapport officiel, 3 botanistes, 3 dessinateurs, des jardiniers, dont l'illustre Anselm Ridley, 2 médecins et des pharmaciens. Le 19 octobre 1800, on quitte le Havre pour atteindre Tenerife le 5 novembre, mais atteint du mal de mer, les savants créent les premiers incidents, mettent Baudin en colère. Par une erreur de navigation regrettable, les deux navires mettent 75 jours, davantage que Vasco de Gama, pour rallier le cap de Bonne-Espérance et 145 jours pour atteindre l'île de France, aujourd'hui île Maurice. Malade, découragé, en conflit ouvert avec Baudin, pourtant tempéré par son second, le commandant Hamelin, 10 savants débarquent, ne pensant qu'à rentrer en France. Il crée une désorganisation certaine dans le projet scientifique, mais deux dessinateurs, Charles-Alexandre Le Sueur et Nicolas Petit, restent à bord. Ce sont leurs précieux dessins que l'on peut voir encore au Muséum d'Histoire Naturelle.